Il est 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalungu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de studio Kalungu. Bienvenue dans le nouveau numéro du forum de studio Kalungu qui parle ce soir des violences basées sur le genre à l'encontre des femmes en situation de handicap dans les services. Les violences basées sur le genre sont courantes dans le monde entier. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, environ une femme sur trois dans le monde a été victime de violences fondées sur le genre à un moment de sa vie. Au Niger, l'enquête nationale des violences basées sur le genre de 2015 révèle que toutes les formes de violences basées sur le genre sont présentes au Niger et les femmes en situation de handicap subissent ces mêmes violences que les autres femmes. Toutefois, la vulnérabilité et la dépendance induites par une situation de handicap peuvent amplifier ces violences ou être à l'origine d'actes spécifiques de violence. Alors, qu'est-ce qu'on entend sur violences basées sur le genre? Quelles sont les principales formes de violences que les femmes handicapées rencontrent dans les services? Comment elles les vivent et comment y faire face? C'est à ces interrogations que nous tenterons de trouver réponse au cours de ces 45 minutes. Et pour ce faire, nous recevons dans ce studio Mme Khadijatou Momouni. Elle est chargée des affaires féminines au sein de la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous recevons Mme Hawa Sadou. Elle vient de la direction chargée des violences basées sur le genre au ministère de la promotion de la femme et la protection de l'enfant. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous recevons également Mme Moussa Sounara Hinatou. Elle vient de la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap. Bonsoir.
Bonsoir.
À la présentation, c'est Nafissa Adam Sirfo. Merci, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Je commence d'abord par vous, Madame Hawa Sadou. Vous êtes représentante de la direction des affaires basées sur le genre. Qu'est-ce qu'on entend par violence basée sur le genre?
Bon, avant de vous répondre, j'adresse d'abord mes vifs remerciements au studio Kalungu pour cette excellente opportunité de débattre ici des violences basées sur les genres dans les services en général et plus particulièrement à l'endroit des femmes en situation de handicap. Au Niger, comme dans tous les pays du monde, les VBG constituent une réalité. Maintenant, les violences basées sur les genres sont un terme regroupant tous les actes infligés à une personne contre son gré.
Les actes, par exemple, quel genre d'actes?
Quelques exemples. Tous les actes.
C'est-à-dire?
Tous les actes sont catégorisés. Mm. Il y a les violences sexuelles, les violences physiques, les violences économiques.
Par exemple, les violences physiques, ce sont des coups donnés sur une personne?
Les violences physiques, c'est ça qu'on appelle le CBV.
C'est-à-dire?
Coups et blessures volontaires.
Effectivement.
C'est des coups qu'on donne sur le physique de la personne. Il y a les violences sexuelles, psychologiques, économiques et socioculturelles.
Donc ce sont là les différentes formes de violences basées sur le genre.
Toutes les formes existent ici au Niger.
Spécifiquement, quelles sont les violences faites aux femmes en situation de handicap, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, dans les services?
Les violences faites spécifiquement aux femmes handicapées dans les services sont d'abord les violences psychologiques.
Psychologiques, oui.
Psychologiques. Ensuite, les préjugés.
Psychologiques de comment?
Les violences psychologiques, c'est toutes les formes de violences qui portent atteinte à la moralité de la personne. Toutes les formes de violence qui portent atteinte à la moralité de la personne. C'est ça, les violences psychologiques. Par exemple, parmi les violences psychologiques, on peut noter les frustrations, ensuite les mépris envers la personne. Par rapport aux préjugés, c'est des perceptions qu'on donne à l'avance sur la personne, sans attendre que ça n'a aucun sens de réalité. C'est des perceptions personnelles qu'on a envers la personne. Et ces perceptions-là, en général, c'est des perceptions qui sont négatives.
Nous allons donc revenir vers vous, Madame Hawa Sadou, le temps de donner la parole à Kadidiatou. Madame Kadidiatou, vous représentez aussi la Fédération des personnes en situation de handicap. Comme vous l'avez si bien entendu, toutes ces formes de violences basées sur le genre existent au Niger et spécifiquement aux personnes, aux femmes en situation de handicap dans les services. Elles font face souvent aux violences psychologiques, les préjugés. Qu'en dites-vous?
Alors, merci beaucoup, Madame Nafissa, alors pour cette occasion que vous nous donnez et que le studio Kalangou donne également pour pouvoir parler de cette question, la violence à l'égard des femmes et handicapées, violence basée sur le genre. Effectivement, elle a parlé des violences psychologiques basées sur les préjugés. Alors, je pense que c'est l'une des violences que je peux dire que subissent beaucoup plus les femmes handicapées, de manière générale, même pas dans les services, dans la société, en ville. De manière générale, c'est une violence parce que ça tourne autour des idées erronées qu'on a sur le handicap, qu'on a sur la personne handicapée. On pense que, et surtout quand vous prenez certaines catégories de handicap, rien qu'en voyant la personne, c'est comme si c'est un problème. Donc, il y a des idées qui sont là, il y a des conceptions, des perceptions préétablies qui sont là autour de la question et qui fait en sorte que la personne a du mal à s'intégrer dans la société. Le comportement de la société à l'endroit de la femme, de la femme handicapée, parce qu'on pense que vous n'êtes pas capable de travailler, parce qu'on pense que vous n'êtes pas capable de gérer une famille, donc vous n'avez pas le droit au mariage, vous n'avez pas le droit de concevoir des enfants. Donc, on pense que vous êtes démunis, vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses.
Donc, le handicap, là, est considéré par la société, et ils prennent ce handicap pour amplifier même ces violences, si on peut le dire, sur ces femmes. Oui.
Et absolument. Et pourquoi on dit que la femme handicapée, elle est dans une situation de double discrimination? Parce que quand on parle de violences basées sur le genre, c'est pour toutes les femmes.
Oui.
Maintenant, elle, quand elle a un
pas
handicap...
Pas que les femmes...
Quand elle a un handicap, et ça vient, ça s'ajoute. Donc, c'est vraiment une réalité. Et les violences psychologiques, comme je le disais, la société a du mal à accepter la personne. Alors, souvent, si la personne n'est pas, si je peux le dire, travaillée, c'est-à-dire si on n'a pas fait en sorte que, de son côté, qu'on casse les barrières internes, c'est-à-dire elle-même, la femme handicapée elle-même, si elle accepte que elle n'est pas comme toutes les autres femmes,
donc
elle ne peut pas faire beaucoup de choses, alors ça va créer ce qu'on appelle les barrières internes.
Mmh.
Elle va se limiter elle-même et ça crée des violences parce que elle va avoir des problèmes même dans sa famille, même dans la famille, sa propre famille, ça va être des problèmes. Et
donc autant de problèmes liés à la femme handicapée. Madame Rahinatou, qu'en pensez-vous vraiment de ces violences basées sur le genre? C'est une réalité, comme l'a dit Madame Kadidiatou tout de suite.
Et merci beaucoup, Madame. C'est bel et bien une pure réalité, les violences basées surtout au niveau des femmes handicapées. Mais quand vous prenez, c'est comme si c'est par catégorie d'handicap. Par exemple, moi, à mon niveau, les plus violatées, ce sont les femmes déficientes intellectuelles, psychologiques et mentales.
Oui.
Parce qu'elles n'ont même pas d'école spécialisée d'abord.
Mm-hmm.
Elles ne sont pas scolarisées d'abord. Ça, c'est un d'abord.
Mm-hmm.
À plus forte raison, s'attendre à un travail.
Oui.
Ça, c'est un. Maintenant, la deuxième catégorie des femmes handicapées, et qui ont aussi ces problèmes, je peux dire que c'est les femmes atteintes d'albinisme. Parce que les conditions de travail ne sont pas bien réunies.
Nous avons la chance d'avoir une représentante qui va nous parler.
Exactement. Et la troisième catégorie, c'est les femmes sourdes, handicapées sourdes, parce qu'elles ont un manque d'interprètes en langue de signes au sein des services.
Mm-hmm.
Quand vous voyez une femme sourde, sois rassurée que même si elle a fait des études, c'est pour être enseignante.
L'enseignement, c'est dans les écoles également destinées aux enfants.
Exactement. Et l'enseignement aussi, c'est seulement au niveau des écoles spécialisées ou bien des écoles intégratrices.
Mm-hmm.
Bon, maintenant, on tente à aller vers l'éducation inclusive. On retrouve certaines dans d'autres écoles ordinaires.
Mm-hmm.
Et c'est rare. Et quand vous prenez aussi les femmes handicapées visuelles, elles ont un problème d'assistant personnel. Parce que quand tu es au sein d'un service, tu as besoin aussi d'un assistant personnel. Donc, il y a ce problème aussi. Maintenant, au niveau des femmes handicapées locomotrices, c'est le problème d'accessibilité aux services. L'endroit ne sont pas accessibles. Quand vous prenez les bureaux de table, ne sont pas accessibles. L'entrée au bureau même, ce ne sont pas accessibles.
Les conditions ne sont pas créées.
Ne sont pas réunies quand vous prenez. Et voilà, c'est ça que vivent la femme handicapée.
Donc c'est
bel et bien une réalité. Quand vous prenez dans les services, vous allez voir, même s'il y a des femmes handicapées, c'est 1% dans les services de l'État. Les femmes handicapées qui travaillent, c'est dans les privés. Et dans les privés aussi, la majorité sont au niveau de leur association.
Donc c'est un grand problème.
C'est un très grand problème. On parle seulement du quota réservé à la femme, mais il n'y a pas un quota réservé à la femme handicapée.
Qu'en dites-vous, Madame Hawa Sadou, du ministère de la Population ? C'est bel et bien une réalité, ces violences basées sur le genre à l'encontre de ces femmes handicapées dans les services. Qu'en dites-vous ? Et que pensez-vous du fait qu'il n'y ait pas assez de femmes recrutées à base du quota ?
Bon, nous, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, une loi qui donne des opportunités, qui donne un quota de 5% pour tout recrutement à la fonction publique en faveur des personnes handicapées. Cette loi existe, ça a été voté par l'Assemblée nationale. Donc, si cette loi n'a pas été respectée, elles ont les pleins droits de se plaindre au niveau des services juridiques.
De revendiquer
leurs droits. Et comme la loi existe, c'est à base de cette loi qu'elles vont revendiquer leurs droits et ils seront dans leurs droits aussi.
Regina, oui.
Et au fait, par rapport au décret, et c'est l'ordonnance 93 qui donne un quota de 5% réservé aux personnes handicapées.
Oui.
Cette loi n'a pas été spécifique pour dire que voilà, c'est un quota réservé, tel ou quota pas. Réservé aux femmes ou aux hommes.
Oui.
Maintenant, le problème qu'on voit au niveau de ce recrutement même à la fonction publique, quand vous prenez, par exemple, moi, je vous prends mon cas. Nous, on a été recrutés par rapport au concours de la fonction publique pour le ministère des Finances qui a été rejeté. Et on était 3 à être présélectionnés. Et à la sélection définitive, il n'y a aucune
des trois,
non. Ils ont recruté des techniciens de surface en nous disant qu'ils ont respecté le quota. Parce que ce quota, effectivement, le quota n'a pas été spécifique pour dire que c'est un quota qui doit être réservé aux cadres ou aux auxiliaires.
Oui, oui.
Donc, vous voyez, non. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas de personnes handicapées cadres à la fonction publique, notamment la femme. Moi, à ma connaissance, il y a un quota bel et bien adopté par l'Assemblée nationale qui a été rehaussé même pour la femme en général.
Mm-hmm.
Et ce quota ne donne pas droit à la femme handicapée. Cette année, par rapport à la participation à la vie publique et politique des femmes handicapées. Il y a une ONG qui a voulu aider les femmes handicapées par rapport à la participation de la femme handicapée à la vie publique et politique.
Donc si on comprend même, c'est même l'accès aux services même qui pose problème.
Exactement.
Qui en soi même constitue une vraie violence pour ces femmes en situation de handicap.
Exactement. D'accord. Elles ne sont même pas dans les services.
Et les quelques-unes même qui sont dans ces services se trouvent, vous dites, dans les privés et autres. Et les quelques-unes qui sont même à la fonction publique, que pouvez-vous vous nous dire sur leur cas, Madame Hawa Sadou?
Moi, je travaille au ministère en charge de la promotion de la femme avec les handicapés. Nous travaillons avec eux. Elles occupent des postes de responsabilité. 3 dont 2 femmes et 1 homme dans notre ministère avec lesquels on travaille avec étroite collaboration. Donc, je ne peux pas la contredire. Je dis que même si ce qu'elle dit là, si on n'arrive pas à atteindre le quota, elle dit qu'on recrute les manœuvres,
oui.
Les auxiliaires, c'est leur plein droit, c'est à eux de lutter pour que vraiment ce quota soit respecté.
D'accord. Madame Khadija Tou, je reviens vers vous. Comme le disait Madame Rahina Tou, les personnes atteintes d'albinisme aussi font face surtout à ces violences. Vous êtes une personne atteinte d'albinisme. Dites-nous comment vous vivez avec, surtout de la société et dans les services, comment vous êtes côtoyé avec vos collègues?
Alors, La situation de la femme handicapée, de manière générale, et la femme atteinte d'albinisme, de façon très particulière. Je dirais, vous savez, dans la société, nul n'est accepté intégralement. C'est-à-dire, on ne va jamais dire, personne ne va dire que tout le monde l'aime. Tout le monde l'accepte. Vous aurez toujours des gens qui ne vont jamais vous accepter, quel que soit ce que vous faites. Ça, c'est un premier point. Alors, quand on prend la femme atteinte d'albinisme, ça veut dire qu'elle va se retrouver dans ce cas. Mais nous, pourquoi, c'est quoi la différence? Parce que quand on n'accepte pas quelqu'un, peut-être une personne qui n'a pas un handicap, peut-être que soit vous avez des malentendus, d'autres choses avec la personne. Mais pour la femme handicapée, je dirais, pour la femme atteinte d'albinisme, pourquoi elle ne l'accepte pas? C'est comme je l'ai souligné au début, c'est en raison de la différence en fait. Parce que comme Rahina l'a souligné, quand vous prenez même le handicap, il y a certaines catégories du handicap qui sont beaucoup plus avancées.
Mais comme l'a expliqué Rahina.
Oui, où on retrouve beaucoup moins de discrimination et de stigmatisation. Mais il y en a certains encore qui jusque-là ne sont pas bien comprises par la société. Comme elle a souligné, la femme handicapée psychosociale, les femmes handicapées déficientes intellectuelles, la femme atteinte d'albinisme aussi. Parce que pourquoi il y a ces préjugés qui persistent? Parce que ce sont des questions, ce sont des catégories de handicap qui n'ont pas été tellement touchées, je dirais, et par l'État, et par les organisations aussi. Peut-être que ce sont des organisations qui sont nées il n'y a pas longtemps. Donc, on ne parle pas beaucoup de la question. Mais c'est tout à fait normal. Parce que quand vous prenez une catégorie qui existait, ou dont on parlait depuis longtemps, où les gens se battaient pour faire comprendre la situation, pour faire améliorer la situation des gens, c'est tout à fait normal que on ait une différence par rapport à un handicap où on n'en parle pas tellement.
Vous spécifiquement, avez-vous un témoignage à donner d'une quelconque violence à laquelle vous avez eu à faire face?
Les violences, ça peut être au niveau purement social, au niveau des écoles, au niveau des services, un peu partout. Violence, moi, c'est vrai que ça ne manque jamais, ça continue, parce qu'il y a toujours des gens que... Même en vous regardant, en tout cas pour la femme atteinte d'albinisme, il y a des gens, même quand ils vous regardent, la seule différence avec la peau, c'est un problème. Il y a le mépris. On vous fait savoir la différence. Donc, on ne vous accepte pas pour la différence de votre peau. Alors, un exemple concret, il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages parce qu'on a eu affaire avec un partenaire voice, on a fait un projet, on a fait un peu maradie de quelques départements où on a des témoignages des femmes atteintes d'albinisme où certaines ont du mal à intégrer leur famille. Il y a une femme au niveau de Guide Rumji. On était là-bas, on a eu une rencontre avec eux, avec les membres qui sont là-bas. Il y a une qui nous a dit, elle est mariée, mais elle, quand elle prépare, sa belle-famille ne mange pas.
Parce qu'elle est atteinte d'albinisme.
Oui, sa belle-famille ne mange pas.
Ça, c'est aussi une forme de violence. Ça, c'est une forme de violence conjugale.
Oui. Et ça a conduit quelque part à... Alors, le mariage, finalement, ça n'a pas pu tenir.
Donc, si on comprend ces femmes en situation de handicap, elles font face vraiment à plusieurs violences, que ce soit au sein de la famille, de la société, dans les services. Et c'est vraiment une réalité. Rahina, vous êtes une personne aussi en situation de handicap. Est-ce que vous avez une fois été victime d'une quelconque violence venant de vos collègues tout au long de votre parcours au sein du service?
Et moi, à mon niveau, je peux dire que avec mes collègues, que ce soit à la maison ou dans mon foyer, je n'ai pas tellement de violence. Pourquoi cela? Parce que j'ai eu la chance d'intégrer le milieu associatif à bas âge. Et ça a fait en sorte que je connais non seulement les droits des personnes handicapées, et aussi les devoirs des personnes handicapées.
Au sein des services, quel exemple vous pouvez, quel témoignage sur ce cas?
Au niveau des services, et je vous ai dit pour la femme handicapée locomotrice, c'est surtout l'accès aux services. Oui. Vous allez voir, il y a une personne handicapée, on lui donne un bureau au troisième étage. Mm-hmm. Même si la personne est avec béquille, même les carreaux,
sur chaise roulante,
même les, que ça soit, même si la personne est sur béquille même, ou bien c'est une personne qui boite, même les simples carreaux des maisons, il y a des carreaux qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées.
Oui.
Il y a des carreaux qui glissent. Ouais. Les tables bancs, les bureaux ne sont pas accessibles pour ces femmes-là.
Oui. Madame Mahawa Sadou, vous disiez plus haut que vous travaillez également avec des personnes en situation de handicap au sein du ministère. Comment ces femmes-là, ou bien ces personnes en général, comme il y a également des hommes, comment ils vivent leur handicap, comment dirais-je, dans les services? Comment ça se passe?
Comme ici, je vous dis que nous parlons en général.
Oui.
En général, les VBG constituent en général une réalité. Mais nous, ici, au niveau de nos services, vraiment, c'est le social. Nous sommes dans une société, les handicapés là avec lesquels nous travaillons, ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Donc, on les aide, nous les aidons à rentrer avec leur tricycle.
Mais est-ce que les conditions sont réunies, les conditions que citait tout de suite à Régina?
Les conditions sont réunies du fait du moment
des passages pour oui.
Il y a les rampes d'accès.
Il y a les rampes d'accès.
Il y a les rampes d'accès au ministère.
Mm-hmm.
Et les handicapés aussi sont toujours au rez-de-chaussée.
Ça a toujours existé ou bien c'est tout peut-être récemment que ça a été?
Les rampes?
Oui.
Non, les rampes, moi je suis venue au ministère en 94, j'ai trouvé les rampes.
Donc ça a 1994. Toujours existé, oui.
Donc ça a toujours existé. Et aussi les handicapés sont, la majorité sont au rez-de-chaussée.
Pour leur faciliter les choses.
L'accès, je connais un seul qui est au deuxième étage avec nous. Et lui aussi, je ne sais pas si c'est son choix.
Il arrive à accéder sans problème?
Non, lui, il y a les rampes d'accès. Il utilise les rampes d'accès. Et au niveau des ascenseurs, dès qu'il vient, on lui fait place, on l'aide à rentrer de l'ascenseur.
Mais est-ce que vous avez, comment dirais-je, des exemples? Quelles sont surtout les régions qui sont le plus touchées par ces violences-là?
Les régions qui sont plus touchées par les violences, c'est la région de Maradi, la région de Zender et la région de Tilabiri.
Et qu'est-ce qui expliquerait cela selon vous?
C'est là-bas qu'il y a plus de personnes handicapées dans les services.
Vous avez des témoignages de certaines personnes victimes de violences au sein de leur service?
Celles qui ont été victimes là, elles ont même dénoncé, elles ont même cherché une
affectation. Donc parlez-nous de vos exemples, madame.
Il y a une
madame
qui travaille au sein du ministère en charge de la population. Cette dame a été et on lui a attribué le poste de chargée des personnes handicapées, la chargée des personnes handicapées. Et elle s'est plainte, elle a révolté.
Pourquoi? Parce que
elle dit que pourquoi? Parce que c'est parce qu'elle est handicapée qu'on l'affecte dans un service, dans une direction.
Qu'on peut bien l'affecter quelque part.
Qu'on peut bien l'affecter quelque part et une autre qui n'a pas, qui ne présente pas un handicap peut occuper cette place.
Mm-hmm.
Donc elle s'est révoltée, elle a cherché une affectation pour qu'on lui change de poste.
Et ça a été
et
fait.
Une deuxième aussi, toujours agent du ministère de la population, elle aussi, elle est directrice divisionnaire promotion de la femme.
Oui.
Mais chaque fois qu'il y a atelier où c'est à l'encontre des personnes handicapées, c'est elle qu'on désigne. Et elle aussi, elle s'est révoltée, elle dit pourquoi c'est parce que c'est à cause de son handicap
qu'elle est toujours désignée pour participer.
Désignée pour participer. Elle s'est révoltée, elle aussi. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est une double discrimination. La discrimination, les VBG, là, ont le droit des femmes handicapées.
Oui.
Toutes les femmes qui ne sont même pas handicapées, comme l'a dit Khadijatou, toutes les femmes sont victimes des VBG à cause de leur sexe.
Oui.
Tout simplement à cause de leur sexe.
Mm-hmm.
Puisque les hommes ont des perceptions comme quoi de l'air.
C'est ça, les préjugés dont vous dites.
Oui, dites, un des préjugés. Pour eux, les femmes, c'est un sexe, le sexe féminin, c'est un sexe inférieur.
Oui, vulnérable.
Vulnérable qu'on ne doit pas en tenir compte comme une personne à part entière. Donc, et du fait, du coup, si la femme a aussi un handicap, elle subit une double discrimination. Donc, et ce que Khadija a eu à dire ça dans ses propos, même si on n'est pas handicapé naturellement,
oui.
Naturellement, il y a des humeurs où vraiment une personne n'est à rien fait, elle ne te plaît pas naturellement. Ça, c'est des questions d'humeur. Et il y a des personnes où, voilà, la personne... elle ne t'a rien fait du bien, tu la vois psychologiquement,
oui.
Tu as des sentiments, des tendances avec elle.
Donc, vous reconnaissez vraiment qu'il existe bel et bien ces violences basées sur le genre à l'encontre de ces femmes handicapées dans les services. Madame Khadijatou, on sait que de la souffrance, ces femmes, vous, femmes handicapées, vous en ressentez quand un collègue de travail ou quelqu'un d'autre vous pose un acte déplacé. Quelles peuvent être vraiment les répercussions, selon vous, après un acte déplacé?
Ça dépend le résultat.
Oui.
Les répercussions peuvent dépendre de la personne même, la personne handicapée. Parce que si c'est une personne avertie, sensibilisée, qui connaît ses droits, qui se trouve déjà dans le mouvement des personnes handicapées, ou bien qui a été formée, qui est un peu, qui a commencé à intégrer le mouvement, ça peut être différent de quelqu'un qui n'a pas été à l'école, par exemple. Lorsque on discrimine une femme handicapée, non instruite, c'est pas la même chose que quand vous discriminez une femme handicapée qui se trouve dans un bureau de la fédération,
qui connaît ses droits.
Parce que si la personne ne connaît pas, n'a pas beaucoup d'éléments, ne connaît pas beaucoup sur ses droits ou bien sur sa situation, quand vous la discriminez, elle va dire oui.
C'est à cause de son handicap.
Effectivement, je suis comme ça, donc je suis différente. Donc je l'accepte. J'accepte qu'on me discrimine parce que je suis différente des autres. C'est vrai, je suis différente. Et ça renforce le repli sur soi. Mais quand vous prenez une femme avertie qui sait déjà quelque chose sur le handicap,
ça peut pas l'affecter autant.
Ça ne peut pas l'affecter parce que moi là où je suis, alors ça va être difficile. C'est vrai qu'il y a le traitement négatif.
Ça peut
faire mal. Vous pouvez porter atteinte à la dignité.
Oui.
Par exemple, quand je marche en ville, par exemple. Lorsque quelqu'un me regarde et la personne, elle crache.
Oui, ça fait mal.
Oui, ça peut porter atteinte à la dignité.
Oui.
Ça peut ne pas faire mal aussi. Parce que pourquoi la personne a craché? C'est elle qui ne connaît rien en vérité.
Justement.
C'est elle qui ne connaît rien. Parce que quand vous voyez de la même manière qu'on a besoin du jour et de la nuit, de la même manière qu'on a des personnes grandes et des personnes petites de taille, de la même manière qu'on a des personnes claires et des personnes de peau noire, toutes les couleurs. Et c'est de cette même manière qu'on a cette différence. C'est de cette même manière qu'on va avoir des femmes handicapées visuelles, des femmes handicapées avec albinisme, des femmes handicapées déficientes intellectuelles, des femmes handicapées sourdes. On en a besoin, l'humanité en a besoin pour sa diversité.
La réalité de la nature, oui.
Et c'est pas parce que la personne a un handicap qu'elle peut être dominée. On a des capacités. On peut faire beaucoup de choses. Et c'est pas pour rien aussi qu'on a ce qu'on appelle la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
oui.
À son article 8, qui parle de la sensibilisation. C'est pas pour rien qu'on a demandé aux États de sensibiliser. Et c'est déjà une très bonne chose ce que vous faites, parce que la Convention a demandé aux États de faire en sorte que les médias fassent la promotion des droits des personnes handicapées.
Oui.
Qu'on les présente sous un angle positif. Qu'on puisse montrer leur capacité, leur contribution à au développement de leur nation, de leur communauté.
Effectivement.
Alors, si quelqu'un me discrimine, ça veut dire que c'est elle qui ne connaît rien.
Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Madame Rahinatou, les violences, ça existe, souvent ça atteint à la dignité même de la personne. Vous représentez la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap. Au sein de cette fédération, qu'est-ce qui est fait pour vraiment assurer une protection, un meilleur épanouissement à ces femmes handicapées et surtout même au sein des services, l'accès même au sein des services? Qu'est-ce qui est fait au niveau de la fédération?
Et je te remercie vraiment pour cette question. Et je profite aussi t'informer que tout récemment, la fédération, moi j'étais désignée avec Khadija pour représenter les femmes handicapées leaders à un atelier sous-régional organisé par la Fédération Ouest-Africaine des associations des personnes handicapées qui a regroupé une quarantaine de pays à Ouagadougou. Et lors de cet atelier-là, vraiment chapeau a été donné au Niger parce que c'est seulement au Niger qu'au sein de la fédération, les femmes handicapées ont un droit,
oui,
comme ça se doit. Quand vous prenez par exemple, même dans la composition des membres du bureau, la fédération c'est une association fêtière. Donc la fédération, pour être membre de la fédération, on demande à chaque association catégorielle de donner deux représentants, une femme et une femme, un homme, pardon.
Oui, oui.
Ça, c'est déjà un atout que la fédération est en train de faire.
Mmh.
Il y a aussi des actions de plaidoyer et de sensibilisation que la fédération est en train de faire.
Mmh.
Par exemple, par rapport à la riposte contre le COVID-19, en collaboration avec le CICR, la fédération a formé plus de 265 femmes handicapées pour la fabrication des masques artisanaux.
Mmh.
Ça aussi, c'est pour permettre à ces femmes-là de connaître leurs droits,
mmh,
et aussi et de résoudre leurs problèmes de mendicité et surtout la pauvreté. Quand vous prenez, il y avait aussi un projet au sein de la fédération, le projet Voice, qui est là pour la participation à la vie publique et politique. Et ce projet-là a permis à peu près 65 femmes, 65 personnes handicapées, dont une vingtaine de femmes, à postuler.
Oui. À des postes.
À des postes politiques. Moi, j'ai postulé en tant que conseillère régionale. Très malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais quand même, c'est une avancée.
Grand chose, beaucoup de...
Exactement.
Beaucoup, oui, beaucoup de forces sont faites au niveau de cette fédération.
Exactement.
Et même celles qui sont, les peu qui sont représentées dans les services, qu'est-ce qui est fait pour vraiment les maintenir, pour qu'elles aient vraiment un épanouissement au sein de leur travail?
Ceux qui sont au niveau des services, la fédération fait des actions de plaidoyer,
oui,
pour que ces femmes-là soient des exemples au sein de leur service. Par exemple, moi, je suis au niveau de la fédération en tant que chargée d'inclusion. Et mon rôle consiste à voir au sein de ces projets-là, est-ce que le handicap est respecté? Est-ce que le genre est respecté? Donc, c'était ça. Maintenant, ces femmes qui occupent des postes, les femmes handicapées qui occupent des postes, la fédération est là en train de renforcer leurs capacités, pour qu'elles soient des exemples, pour qu'elles ne donnent pas des mauvaises images, pour que ces sociétés-là disent qu'on en a marre.
D'accord, des efforts sont vraiment faits au niveau de la fédération. Madame Hawa Sadou, au niveau du ministère de la promotion de la femme, quel est le dispositif qui est peut-être mis en place à votre niveau pour protéger ces femmes handicapées en cas de quelconque violence ou bien pour leur épanouissement même?
Bon, le dispositif pris à l'encontre des femmes handicapées pour leur épanouissement, et le gouvernement de la 7e République a pris des dispositions conformément à ses engagements nationaux et internationaux à travers plusieurs textes souscrits par le Niger. Il y a d'abord la loi numéro 2019-62 du 10 décembre 2019 déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'insertion des personnes handicapées Cette loi a été votée par l'Assemblée nationale et le décret d'application est en cours de validation. En dehors de cette loi, il y a la convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention, le Niger a aussi élaboré une loi pour que ça soit vraiment pour épuiser de cette convention les réalités, les tests qui sont conformes à nos réalités.
Oui.
Et maintenant, une fois la loi adoptée et son décret d'application, c'est en fonction de ça que vraiment les personnes handicapées seront vraiment bien protégées.
D'accord. Madame Kadidiatou, qu'en pensez-vous de ces dispositifs qui sont pris qu'en pensez-vous de la mise en œuvre? Vous êtes optimiste?
Je voudrais d'abord faire la loi dont elle parlait, 2019-62 du 10 décembre 2019. C'est toujours la loi de l'harmonisation. Parce qu'en fait, elle a parlé d'une loi qui a été prise et suite à la ratification du Niger pour la convention. En fait, c'est quand le Niger a ratifié la convention en 2008, la CDPH, la convention relative aux droits des personnes handicapées, et dans les obligations des États, au niveau de l'article 4, il est fait obligation à chaque État d'harmoniser sa législation interne. Donc, nous déjà, avant la convention, déjà l'ordonnance 93-012, c'était le premier test. C'était la référence sur les droits des personnes handicapées. Et c'est dans cette ordonnance qu'on parlait du quota des 5%.
Justement.
Donc, il y avait déjà cette ordonnance, la première. Il y avait des décrets sur la santé. Il y avait beaucoup de tests sur les droits, soit des tests spécifiquement sur le handicap, ou bien des tests généraux qui prennent en compte le handicap. Alors, quand on a demandé aux États, au niveau de l'article 4, les obligations des États, chaque État doit harmoniser. Et c'est suite à l'harmonisation, la fédération, avec l'appui d'un de ses partenaires, la CBM, entrepris en 2015 cette étude d'harmonisation. Et c'est suite à l'harmonisation qu'on a cette loi, la loi 2019 du 10 décembre 2018, sur les règles et de l'insertion des personnes handicapées. Alors,
rapidement, comme nous sommes presque à la fin.
On est optimiste. Les tests sont là. Et quand on a des tests, comment mettre en œuvre des tests? Il nous faut des ressources. Et c'est là que se posent tous les problèmes. Vous savez, la fédération avait un fonds qu'on appelle fonds de soutien aux personnes handicapées.
Justement.
Donc, en 2018, quand on a fait et on a modifié les tests au niveau de pour la gestion des comptes, depuis 2018, la fédération n'a plus ce compte. On n'a plus de fonds. Le fonds de soutien, ça a disparu.
Ça a disparu.
Alors, quand on dit que dans un test, les enfants handicapés ont droit d'aller à l'école, ils ont droit à l'accessibilité, ils ont droit à ceci, à cela, ils ont droit à ce que les enseignants soient formés. Donc, il faut quoi? Il faut des ressources. Donc, c'est vrai, nous avons les tests, nous avons la CDPH, nous avons des ordonnances, nous avons les lois. On a beaucoup de choses, beaucoup de tests.
Mais c'est l'application.
Maintenant, c'est l'application, c'est les ressources pour appliquer.
Merci. Alors, Rahinatou, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Comment mieux agir pour lutter contre ces violences basées sur le genre, surtout à l'encontre des femmes? Et que faire davantage pour maintenir même les femmes handicapées au sein des services?
Et la fédération est en train de faire, avec l'appui de ses partenaires, c'est surtout d'avoir le soutien de l'État.
D'accord.
Le soutien de l'État par rapport à la sensibilisation des personnes handicapées eux-mêmes.
Et surtout, peut-être quelques conseils à ces femmes même qui sont dans les services.
Les conseils que j'ai à donner, c'est vraiment de donner un bon exemple. De donner un bon exemple, de bien connaître les textes existants d'abord en faveur des personnes handicapées, qui sont l'ordonnance 93, les ODD, la CDPH. Parce que sans ces lois-là, la personne handicapée ne peut pas savoir s'il a des droits ou des devoirs.
Merci bien, Madame Hawassadou. Votre dernier mot, c'est la fin donc de cette émission. Votre dernier mot?
Moi, mon dernier mot par rapport à ça, vraiment, l'État a pris des précautions pour protéger les personnes handicapées. Parmi les précautions, nous avons la Constitution du 25 novembre 2011 à son article 22. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La Convention des droits de l'enfant. L'adoption d'une politique nationale genre en 2008 et révisée en 2017. L'adoption d'une stratégie nationale de prévention
rapidement,
et de réponse au VBG.
D'accord.
Maintenant, il y a une campagne de 16 jours d'activisme chaque année.
Chaque année.
Chaque année, 16 jours. Chaque année, le 25 décembre de chaque année, on prend 16 jours de sensibilisation pour la protection
des
personnes handicapées et le cadre de concertation des intervenants en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
D'accord. Donc, beaucoup est fait aussi au niveau du ministère de la Population. Et c'est ici donc que se referme à ce forum. Merci, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou. Comme vous l'avez si bien entendu, les violences basées sur le genre existent bel et bien ici au Niger. Et spécifiquement, les femmes handicapées aussi en subissent, surtout dans les services. De par les interventions de nos invités, il leur faut même un accès équitable à ces services pour pouvoir penser à un épanouissement. Et c'est ici donc que prend fin ce forum. Nous étions avec Madame Moussa Souna Reynatou, représente la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap. Merci Madame Reina. Madame Kadijatou Moumouni, aussi responsable, elle est chargée des affaires féminines au sein de cette fédération. Merci à vous.
Merci.
Madame Hawa Sadou, elle nous vient de la direction chargée des violences basées sur le genre au ministère de la Promotion de la Femme. Merci à vous. À la présentation, c'était Nafissa Adam Sirfo. À la technique, Madame Amina Hassan. À la régie vidéo, Mustapha Ayouba. À très bientôt sur le Studio Kalangou pour une nouvelle thématique. Au revoir.